Très chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de l'Église. Nous en avons terminé avec notre série d'émissions qui était consacrée au Père de l'Église avec des écrits de Benoît XVI. Et après cette longue série, nous entamons un nouveau cycle qui sera consacré aux jésuites. Alors, pour nourrir ces émissions, nous nous servons d'un ouvrage qui s'intitule Les Jésuites ou la gloire de Dieu. Alors il s'agit là de textes, bien sûr, qui ont été écrits par François Lebrun et également Elisabeth Antebi. Alors nous débutons évidemment par le commencement et cela nous amène à l'année 1540. La Compagnie de Jésus a été fondée par un gentilhomme devenu pèlerin, très vite rejoint par des princes, des explorateurs légendaires, de très modestes compagnons. Ces artistes, astronomes, mathématiciens, philosophes, théologiens firent son prestige. Ses confesseurs influèrent sur les rois, ses prédicateurs sur les foules. Par son action, elle a contribué à modifier le regard que nous portons sur nous et sur le monde. Grâce à ses collèges, aux relations des missions jésuites, des Indes à la Chine, de l'Amérique du Sud au Canada, d'Afrique en Alaska. Au XVIIIe siècle, la conspiration des philosophes et la pression exercée par les Bourbons sur le pape aboutiront alors à la suppression de 1773. Et bien évidemment, pour parler des jésuites, nous devons nous intéresser à Ignace de Loyola. Nous allons remonter donc en son temps. Ignace de Loyola, il est né en 1491, un an avant la découverte par Christophe Colomb d'un nouveau monde inconnu jusque-là des Européens. En 1541, l'année où Calvin publie en français « Institution de la religion chrétienne », Ignace est élu préposé général de la Compagnie de Jésus qu'il a créée. Il meurt en 1556. 20 ans après la mort d'Érasme, quelques mois après l'abdication de Charles Quint et 7 ans avant la dernière session du Concile de Trente. Ainsi, sa vie s'inscrit-elle dans le demi-siècle qui voit basculer l'Europe dans la modernité avec les débuts de l'hégémonie mondiale du vieux continent et la fin de l'unité de la chrétienté médiévale. Avant d'évoquer les principales étapes de la vie d'Ignace, il convient de brosser à grands traits cette toile de fond, car ce grand mystique fut aussi un grand homme d'action, participant passionnément à l'histoire de son temps et cherchant à infléchir pour une plus grande gloire de Dieu. L'Europe au temps d'Ignace, c'est d'abord l'Europe des grandes découvertes du XVe siècle, où mobiles économiques et mobiles religieux se mêlent inextricablement. Pour les Portugais qui, dès le début de ce siècle, se lancent dans la reconnaissance des côtes occidentales d'Afrique, il s'agit avant tout d'accéder directement à l'or du golfe de Guinée, de plus en plus demandé dans une Europe qui souffre d'une cruelle pénurie de métaux précieux. Plus tard, Christophe Colomb et tous les découvreurs et conquérants à la suite seront animés eux aussi par cette obsession du métal doré. La recherche des épices par voie maritime est un mobile plus tardif et moins prégnant. Pourtant, après 1460 environ, les Portugais envisagent d'atteindre directement les pays de l'océan Indien producteurs d'épices afin de court-circuiter les marchands italiens et de se procurer les produits d'Asie à meilleur compte. Colomb, à son tour, fera le même calcul. À ces mobiles économiques s'ajoute et se mêle sans antinomie ni contradiction un mobile religieux, à savoir la conversion des infidèles au-delà des terres chrétiennes d'Europe. Cette volonté de conversion participe à la fois du vieil esprit de croisade et d'un nouvel esprit de mission. Le premier reste très vivant chez les Portugais et les Espagnols, engagés depuis des siècles dans la lutte contre l'islam. Le second anime tous ceux qui entendent convertir sans violence en prêchant l'évangile. Sous l'impulsion du prince Henri le Navigateur, les Portugais lancent des expéditions dont le but est d'aller toujours plus loin le long de la côte africaine en observant jalousement le secret pour tenter à la fois de prendre l'islam à revers et d'atteindre les régions aurifères de Guinée. Après diverses étapes, Diaz double en 1488 le cap dit de Bonne-Espérance. Et en juillet 1497, Vasco de Gama contourne le continent africain, longe la côte orientale et de là atteint le Calicut sur la côte de l'Inde. Christophe Colomb, de son côté, meurt à Valladolid en 1506, sans avoir soupçonné, semble-t-il, qu'il n'avait pas atteint les Indes d'Asie, mais découvert un nouveau monde. Pourtant, très vite, la vérité se fait jour et en 1507, un cartographe baptise ce continent Amérique du nom d'un navigateur successeur de Colomb, Amerigo Vespucci. En 1521-1522, l'expédition commandée par Magellan, portugais passé au service de l'Espagne et poursuivi après sa mort par son lieutenant, contourne par le sud le continent américain, traverse l'océan Pacifique et rentre en Europe par le cap de Bonne-Espérance, apportant la preuve expérimentale de la sphéricité de la Terre. Les conséquences des grandes découvertes sont telles qu'il est légitime de voir en celles-ci le début de temps nouveau. La première de ces conséquences est la création des empires coloniaux portugais et espagnols, qui seront les premiers terrains de mission des jésuites. L'Empire portugais est constitué d'une série de comptoirs, point d'appui à une flotte militaire qui assure par la force le respect du monopole commercial portugais contre tous les concurrents européens ou asiatiques. Bien différent est l'Empire colonial espagnol. En effet, une poignée de conquérants venus d'Espagne entreprennent la découverte et la conquête du Nouveau Monde en trois étapes successives. Les Grandes Antilles, le Mexique conquis sur les Aztèques par Fernand Cortés, le Pérou conquis sur les Incas par François Pizarre. Après le pillage des trésors aztèques et incas, c'est l'exploitation des mines d'or et surtout d'argent qui constitue à partir du milieu du XVIe siècle la grande richesse des Indes espagnoles et par conséquent du roi d'Espagne. En Europe même, les conséquences sont considérables. Pour la première fois, l'économie européenne limitée à la fin du XVe siècle au vieux continent avec les deux foyers de l'Italie du Nord et des Pays-Bas éclate aux dimensions du monde. En outre, la découverte de ce monde ignoré relativise toutes les connaissances. L'Amérique avec ses sauvages, rachetés ou non par le Christ, avec sa faune et sa flore étrange, avec ses immenses solitudes, avec ses richesses vraies ou supposées, commence à peupler l'imaginaire européen. Dans le même temps, cette Europe chrétienne qui s'ouvre au monde est menacée au plus vif d'elle-même par un double danger. L'infidèle et l'hérétique. Depuis la prise de Constantinople, qui en 1453 a marqué la fin de l'Empire byzantin, le danger turc n'a cessé de croître. Même si Venise, aux avant-postes du monde chrétien, réussit à maintenir l'essentiel de ses positions en Méditerranée orientale, il n'en reste pas moins que désormais les infidèles sont à une journée de marche de Vienne. Il y a plus grave encore. C'est l'unité même de la chrétienté qui est menacée par les progrès de la réforme protestante. Les malheurs qui ont frappé l'Église au XVe siècle avec le grand schisme et les conflits entre papes et conciles ont provoqué une profonde inquiétude religieuse et un grand désir de réformer l'Église dans son chef et dans ses membres. Au-delà de la fin des abus les plus criants, le luxe excessif de la papauté ou l'absentéisme trop fréquent des évêques, ce que réclament Érasme, Guillaume, Brissonnet ou Martin Luther, c'est un clergé dont les membres ne soient pas seulement des dispensateurs de sacrements, mais des hommes irréprochables, capables d'enseigner la parole de Dieu et de répondre ainsi aux inquiétudes et aux préoccupations du temps. Or, à la fin du XVe siècle, ni les conciles, ni les papes n'ont réussi à obtenir la réforme tant souhaitée. Aussi, faute d'avoir été réalisée par l'Église elle-même, eh bien celle-ci va se faire sans elle et bientôt contre elle. Très chers auditeurs, vous êtes toujours sur votre radio chrétienne à l'écoute de l'émission Histoire de l'Église et nous avons débuté un nouveau cycle d'émissions qui sera consacré aux Jésuites. Nous reprenons maintenant le cours de notre récit. Dans les années qui suivirent l'excommunication de Luther par le pape Léon X en 1521, le luthéranisme se répand en Allemagne grâce à l'appui de certains princes, cependant que d'autres réformateurs développent des idées plus ou moins inspirées de celles de Luther. C'est le cas de Martin Bucer et d'Ulrich Zwingli. C'est le cas un peu plus tard du français Jean Calvin qui élabore une doctrine originale en fondant la religion chrétienne sur la justification par la foi, la prédestination comme don purement gratuit de Dieu, le culte en esprit, l'autorité exclusive de la parole de Dieu. De Genève, où l'auteur s'est installé en 1541, le calvinisme se répand en Europe centrale, en Écosse, en Angleterre, où l'anglicanisme établi par Élisabeth à partir de 1559 est un compromis entre calvinisme et catholicisme et en France où sa diffusion se heurte à une violente répression. En dépit des aspirations des fidèles et de quelques réussites importantes, mais isolées, notamment en Espagne, l'Église romaine se révèle donc incapable de promouvoir et d'opérer elle-même la profonde réforme religieuse tant souhaitée. Pourtant, Rome se décide enfin à réagir à partir des années 1540. De ce fait, l'œuvre entreprise est à la fois contre-réforme et réforme catholique. Contre-réforme, c'est-à-dire réaction de défense, non seulement doctrinale mais souvent violente, face aux positions conquises par ceux que l'on appelle depuis 1530 les protestants. Réforme catholique, c'est-à-dire réponse originale apportée à l'attente des fidèles, est comparable en cela aux diverses réformes protestantes. L'œuvre essentielle est accomplie par le Concile de Trente, réuni en 1545 à l'initiative du pape Paul III. Le Concile, qui tient sa dernière session en 1562-1563, après plusieurs interruptions et reprises, définit beaucoup plus clairement qu'auparavant les points du dogme mis en cause par les protestants, en condamnant ceux-ci sans équivoque. Il réaffirme le rôle des œuvres personnelles dans le salut, la place de la tradition, à côté de la Bible comme élément de la révélation. Une distinction nette entre prêtres et laïcs, l'existence des sept sacrements, la valeur du culte des saints, notamment celui de la Vierge. En matière de discipline, il condamne les abus, maintient le célibat ecclésiastique et le latin comme langue liturgique et surtout recommande la fondation d'un séminaire dans chaque diocèse pour la formation morale, intellectuelle et religieuse des futurs clercs, ainsi, afin plutôt de les rendre plus aptes à transmettre la foi par le catéchisme et la prédication. La condamnation sans appel du protestantisme prononcée par le Concile et l'autorité accrue que la papauté retire du succès de celui-ci achève de consacrer la division de la chrétienté occidentale. Depuis les années 1530, cette division a déjà entraîné un peu partout et pour plus d'un siècle guerres et répressions inexpiables avec leur cortège de bûchers et de massacres. Cette triste réalité est un cruel démenti aux ambitions plus ou moins affichées en 1519 par le jeune Charles de Habsbourg au lendemain de son élection à la dignité impériale. Le nouvel empereur, chef de la maison d'Autriche, maître des Pays-Bas et de la Franche-Comté, roi d'Espagne depuis 1516, rêve au moins jusque vers 1530 de réaliser la monarchie universelle et chrétienne. L'imperium mundi, qu'implique son titre impérial, est d'exercer ainsi, à côté du pouvoir spirituel du pape, le pouvoir temporel pour le plus grand bien de toute la chrétienté. Mais ce rêve médiéval des deux pouvoirs est devenu totalement anachronique dans l'Europe du début du XVIe siècle. Le roi de Portugal, le roi d'Angleterre, le roi de France, François Ier depuis 1515, pour ne citer que cela, s'estime chacun pour son compte empereur en son royaume et ne voit en Charles Quint qu'un souverain parmi d'autres, dont la puissance peut être éventuellement une menace. La longue lutte, coupée de trêves qui oppose de 1519 à 1559 la France et la maison d'Autriche, a pour cause les ambitions rivales des deux souverains en Italie et la menace d'encerclement que les possessions de Charles Quint font peser sur la France. Cette lutte indécise aboutit à un statu quo. Dans l'Empire même, l'empereur ne peut empêcher la diffusion du luthéranisme et, à l'issue d'une longue lutte armée contre les princes luthériens, il doit reconnaître en 1555, par la paix d'Augsbourg, la division religieuse de l'Empire entre les deux confessions et le surcroît de puissance que les princes passés au luthéranisme tirent de la sécularisation des biens du clergé. Tout autant que l'offensive victorieuse des Ottomans, la rupture de l'unité chrétienne, la résistance ouverte ou larvée des monarchies européennes, le renforcement des pouvoirs des princes à l'intérieur de l'Empire sont la preuve que, dans ces domaines aussi, l'Europe troque les valeurs médiévales contre les valeurs nouvelles de la modernité. Tel est le monde plein de bruit et de fureur dans lequel a grandi et a vécu le fondateur de la Compagnie de Jésus. Inigo, né en 1491 au château de Loyola, dans la province basque du Guipuscoa, qui relève du royaume de Castille. Son père, un gentilhomme campagnard, issu d'une vieille famille qui s'est illustrée par les armes, et sa mère l'élève, comme ses frères et sœurs dans un catholicisme traditionnel. À 15 ans, en 1506, orphelin de père et cadet, il quitte Loyola pour la cour de Ferdinand d'Aragon qui, depuis la mort de sa femme Isabelle de Castille, 2 ans plus tôt, règne seul sur toutes les Espagnes. Un ami de son père l'a admis parmi ses pages. Inigo s'initie à la vie de cour, vie brillante, animée par la jeune reine germaine de foi avec laquelle Ferdinand vient de se remarier. Mais en 1516, ce dernier meurt, laissant le trône à son petit-fils, Charles de Habsbourg, et Juan Velasquez tombe en disgrâce. Inigo entre alors au service du duc de Lara, vice-roi de Navarre, pour le compte du roi d'Espagne. En 1512, en effet, Ferdinand d'Aragon s'est emparé du royaume de Navarre, dont le jeune héritier ainsi dépossédé, Henri d'Albert, vicomte de Béarn, recherche bientôt l'appui du roi de France, et c'est ainsi qu'Inigo participe en mai 1521 à la défense de Pampelune, capitale de la Navarre, attaquée par des troupes franco-navarraises commandées par André de Foix. Accablés sous le nombre, les assiégés se réfugient dans la citadelle, et c'est là que notre Inigo est grièvement blessé aux jambes par un boulet français. Bien traité par ses adversaires, il peut regagner le château de Loyola où il est soigné par sa belle-sœur. Il est profondément humilié par cette blessure qui risque de compromettre à jamais sa future carrière de caballero, rêvant de gloire et d'amour. Aussi accepte-t-il de se confier à des chirurgiens dont les traitements barbares se révèlent en fin de compte inefficaces. L'une de ses jambes reste plus courte que l'autre et il sera estropié à vie. Et nous poursuivrons, très chers auditeurs, la suite de cette histoire la semaine prochaine. Alors rendez-vous au même endroit pour l'émission Histoire de l'Église. D'ici là, bonne continuation à l'écoute des programmes de votre radio et merci encore. À bientôt.